Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
15h25 minutes, ben ça a été une longue saga et le projet de loi 96 qui se veut en quelque sorte là la version 2.0 de la loi 101 qui vient la renforcer, ben elle vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale. Je lève les yeux vers les téléviseurs, le premier ministre François Legault est en point de presse, flanqué de Simon-Jolin Barrette, et est en train d'expliquer les positions du gouvernement caquiste. Donc, notre prochaine invitée pour parler de l'adoption du projet de loi 96 est une fille d'immigrants qui ne parlait pas français à leur arrivée du Liban. Elle est aussi désormais députée de Mercier pour Québec solidaire. Rouba Gazal est avec nous. Madame Gazal, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Lagacé.
D'abord, votre parti a appuyé le projet de loi 96. Qu'est-ce qui motivait Québec solidaire à l'appuyer?
Oui, ben à Québec solidaire, là, depuis notre fondation, la protection du français, c'est extrêmement important. C'est la langue commune, la langue autour de laquelle tous les Québécois, peu importe leurs origines, qui sont nés ailleurs que moi, ne parlant pas français, ou qui sont ici depuis 400 ans, ben c'est important de la protéger. Puis pour nous, c'est aussi une question de justice sociale. Hein. C'est pour ça que les syndicats aussi, dans leur histoire, ont toujours protégé le droit de travailler en français. Fait que c'est pour ça qu'on l'a appuyé.
OK, on va commencer avec ce que vous aimez pas, par contre, de cette loi-là, parce que vous avez dit qu'elle aurait dû être amendée de quelque manière. Là. Et après ça, on parlera de ce que vous en aimez pas mal. Donc d'abord, vous êtes bouché le nez sur quel amendement?
Ben en fait, nous, notre engagement là, à Québec solidaire, si on forme le gouvernement, c'est tout de suite de rendre inopérant le 6 mois. Ça, il y a un article dans le projet de loi qui interdit aux agents de l'État, sauf plusieurs exceptions, de s'adresser à des immigrants qui sont ici, des immigrants ou des réfugiés qui sont ici depuis plus de 6 mois. T'sais, au début, avant leur arrivée, on peut leur parler d'autres langues, notamment l'anglais, mais aussi leur langue maternelle avec des interprètes. Après 6 mois, c'est terminé. Puis là, il y a des exceptions. Moi, je donne mon exemple. Vous avez parlé que moi, je suis née ailleurs. Quand je suis arrivée au Québec, je parlais pas le français. J'ai été dans une classe d'accueil dans une école publique à Montréal. Et ça faisait plus de 6 mois qu'on était au Québec quand mes parents ont fait une rencontre, qu'il y en a eu d'autres aussi, avec mon prof de classe d'accueil. Il leur disait dans quoi je m'améliorais, dans quoi je devais m'améliorer, comment m'aider à améliorer mon français, tout ça, pour que mes parents puissent m'aider dans mon parcours scolaire. Mais toute cette réunion-là avec mes parents, ben ça s'est passé en anglais parce que mes parents, pour m'aider, il fallait qu'ils comprennent ce que le prof leur disait. Puis ils ne parlaient pas le français encore à l'époque. Donc, c'est cette expérience de bienveillance qui est importante. Malheureusement, dans le projet de loi, le ministre, malgré le fait que je lui ai demandé de prolonger ce délai-là de 3 ans, après ça, je lui ai demandé de 2 ans, il a toujours refusé. Ben, ça va être important pour nous, à Québec solidaire, de rendre ça inopérant. Ça, c'est un point sur les 200 articles avec lesquels on n'est pas d'accord.
Mais le point principal qui vous rebutait, là, c'était ça. C'était la question des 6 mois de grâce avant d'être obligé de transiger en français.
Oui, puis on n'est pas les seuls. Je veux dire, à Québec solidaire, on écoute les gens qui sont en lien à tous les jours. Il y a des organismes qui sont en contact avec des réfugiés, des immigrants qui nous disent que ça n'a pas de bon sens. De toute façon, là, rendre ça opérationnel, là, ça n'arrivera pas. Là.
Mais justement,
ça, inquiéter les gens.
Je veux vous entendre là-dessus sur le fait de rendre ça opérationnel, comme vous dites, Madame Gazal, là, parce que, disons, là, une petite Rouba Gazal dans un an, qui est dans sa classe, si les parents doivent parler avec le prof parle anglais, les parents immigrants parlent anglais, s'ils sont à leur 7e mois de résidence, est-ce que je comprends que le prof n'a pas le droit de leur parler autrement qu'en français?
Ben, en fait, comment c'est écrit dans la loi, c'est comme la volonté du gouvernement de dire on va protéger le droit du prof de pas parler français.
OK.
De pas parler anglais, okay. Exactement. C'est ça la volonté du gouvernement.
Mais quand on parle d'opérationnaliser, je veux dire, y a-t-il quelqu'un qui va aller donner un ticket au prof?
Ben ça, c'est c'est là qu'il y a beaucoup de flou puis qu'il y a des questions qui sont pas répondues. Mais tout de suite, la pièce maîtresse après le projet de loi, c'est une politique linguistique où le gouvernement va dire comment est-ce qu'on va rendre ça opérationnel. Et après ça, les ministères et organismes, notamment le ministère de l'Éducation, les commissions scolaires, comme pas les commissions scolaires, mais les centres scolaires, le centre de services scolaires, comme à Montréal, où il y a beaucoup d'écoles, où il y a beaucoup d'immigrants. Là, ils vont dire comment, dans une directive, nous, on va vraiment le faire. Est-ce qu'on va faire appel à des interprètes? J'ai posé des questions au ministre. Est-ce que c'est possible d'augmenter le budget pour faire appel à des interprètes pour pas tout de suite aller vers l'anglais puis peut-être aider à avoir des interprètes qui sont présents? Évidemment, ils pourraient pas être présents tout le temps. C'est pour ça que ça devient compliqué, extrêmement compliqué. Et surtout, ça inquiète les gens. Ça les inquiète. Et c'est ce message-là, moi, pour moi, qui est important pour que le petit Ruba qui nous écoute entende pas qu'on est là, qu'on veut les punir avec le français. Au contraire, faut qu'ils l'aiment. Il faut qu'ils aient une belle expérience bienveillante comme la mienne. Et c'est pour ça que nous, on dit qu'on va rendre ça inopérationnel.
OK. Qu'est-ce que vous aimez? C'est quoi la grande force de ce projet de loi-là pour vous?
Je suis allée peut-être trop loin. Vite, il y a aussi les Autochtones. Nous, à Québec solidaire, ce qu'on dit, c'est on va, de nation en nation, on va adopter un projet de loi pour valoriser leurs langues autochtones. Le ministre les a invités en commission parlementaire, il ne les a pas écoutés. Et ça, c'est une autre occasion manquée. Ce qu'on aime, là, il y a plusieurs choses dans le projet de loi qui sont des belles avancées. Il y a, par exemple, un guichet unique pour apprendre le français. C'est une demande historique des organismes qui font de la francisation, qui donnent des cours aux nouveaux arrivants en français. Fait que là, il y a un guichet unique. Il va y avoir un commissaire à la langue française qui va être nommé aux deux tiers par les élus de l'Assemblée nationale. Les entreprises à charte fédérale, comme les banques, par exemple, les compagnies d'assurance, se vont être soumises à la charte québécoise là, de la langue française. Donc ça, c'est des belles avancées, puis il y en a beaucoup dans le projet de loi. Et c'est pour ça qu'on dit, OK, il y a une belle avancée, on va l'appuyer, mais c'est pas notre projet de loi. Si Québec solidaire l'écrivait aujourd'hui, mais on serait allé beaucoup plus loin, notamment en francisant les milieux de travail, pour que la charte de la langue française, la loi 101, bien, qu'elle s'applique aux entreprises avec 10 employés et plus. Là, il y a une avancée, on l'applique aux entreprises de 25 employés plus, parce que la langue du travail, c'est là qu'on passe la majeure partie de notre temps. Puis c'est la langue du travail doit être en français au Québec, et c'est pas encore assuré.
OK. Dans la communauté anglophone, il y a plusieurs il y a plusieurs informations qui circulaient, des informations qui étaient contestées, là, puis il y a question d'interprétation là-dedans, là, notamment sur la langue qui pourrait être utilisée entre les patients et les médecins. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus?
Oui, écoutez, moi, là, je l'étudie depuis un bout de temps. Et là aussi, le ministre et le CAQ et M. Legault ont raté une chance historique pour nous unir autour de la langue française. Ils auraient pu répondre à toutes ces questions-là dès le début. Ils ont entretenu le flou tout le temps. C'est ce qui fait que les gens sont inquiets et ont l'impression qu'ils n'ont pas de réponse. Il y a un article dans la loi sur la santé et les services sociaux, l'article 15, qui n'est nullement touché par le projet de loi 96 et qui protège dans le système de santé, partout là, dans la santé, le droit pour n'importe qui, pas juste les anglophones, n'importe qui, pour parler en anglais dans le système de santé. Il y a aussi des exceptions sur le 6 mois. Si, par exemple, la santé, la sécurité, il y a une autre expression qui m'échappe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup matière à interprétation pour amener des exceptions. Et c'est ça que le ministre Jeanlin Barrette et M. Legault n'ont pas fait. Camille Lorrain, là, en 1977, quand il a fait adopter la loi 101, juste avant, il a pris son bâton du pèlerin, puis il a fait le tour du Québec. Il est allé rencontrer les communautés culturelles, les milieux d'affaires, partout, les anglophones où les gens étaient inquiets, pour leur expliquer c'était quoi son intention, qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut protéger la langue française, la langue du travail. Évidemment, à la fin, est-ce que tout le monde était d'accord? Bien sûr que non, mais il y a eu un consensus jusqu'à tout récemment autour de la loi 101. Et là, malheureusement, ce consensus-là est brisé parce que le gouvernement n'a pas ouvert les bras, n'a pas démontré de l'empathie en répondant à ces questions tout à fait légitimes, surtout qu'il n'y avait même pas matière à inquiétude, notamment dans le système de santé. Il n'y a pas de problème, je rassure les gens, puisque le gouvernement a refusé de le faire, qui nous écoute, quand vous allez voir votre médecin, si vous parlez en anglais, il a toujours le droit de le faire, même après l'adoption du projet de loi 96. Si ce projet de loi primait les droits des anglophones, la minorité historique anglophone, Québec solidaire, on aurait été les premiers à être contre, mais ce n'est pas le cas.
Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui, Mme Gazal. Bonne journée.
Merci à vous.
Salut. Rouba Gazal, qui est député de Mercier pour Québec solidaire.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Professeur Lemieux, bonsoir.
Bonsoir.
Écoutez, qu'est-ce qu'on sait sur cette tragédie? Une nouvelle école, cette fois-ci une école primaire qui est frappée par un tireur fou.
Oui, donc on sait en ce moment qu'il y a environ au moins 14 enfants qui seraient décédés suite à cette tuerie de masse. Et peut-être même un prof, un enseignant, et peut-être aussi plus. On sait qu'il y a d'autres enfants qui ont été aussi admis à l'hôpital. Vous mentionnez juste avant de me faire intervenir qu'on ne sait pas si le tueur est décédé ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui va probablement être confirmé dans les prochaines minutes ou prochaines heures, mais c'est semble que c'est la situation en ce moment.
OK. C'était au mois de décembre 2012. Une nouvelle frontière de l'horreur en termes de tuerie de masse était franchie. Jeune déséquilibré est entré dans une école, a fait feu sur des jeunes d'une école élémentaire à Sandy Hook. Est-ce que je me trompe ou depuis, il n'y en avait pas eu de tuerie de masse comme ça dans des écoles élémentaires aux États-Unis?
Non, vous avez raison. C'est des événements qui sont extrêmement rares. La plupart des tueries de masse qui arrivent dans les écoles aux États-Unis, c'est plutôt dans les écoles, je dirais, les écoles secondaires principalement. Et c'est souvent commis par des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans en général. Et c'est souvent une action en réaction, si vous voulez. Il y a des actes de bullying et des phénomènes de clique à l'école, de l'isolation, ou en fait, peut-être que le jeune se sent repoussé ou pas intégré, etc. Mmh. Il y a aussi souvent des problématiques de psychologiques et psychiatriques qui sont là aussi, mais ça arrive avec des jeunes qui sont plus vieux en général.
Et en général, quand ce sont dans des écoles, c'est dans des écoles, bien souvent des écoles secondaires.
Oui, c'est ça. Des écoles secondaires, puis je dirais aussi qu'il y a une particularité géographique aussi à ce type d'événement. On remarque plus souvent que ces événements-là de mass shooting arrivent en milieu rural ou dans des milieux semi-urbains, semi-ruraux. Et rarement sur des campus d'écoles qui sont en milieu urbain, par exemple. Donc, on voit ce genre de concentration géographique d'événements dans ces lieux-là.
Et le plus souvent, ces tueries-là sont commises avec des armes légalement acquises.
Oui, c'est souvent des armes qui proviennent de la maison. Donc, un jeune va probablement prendre les armes de ses parents ou va avoir, d'une manière ou d'une autre, acquis ces armes-là d'amis ou quelque chose comme ça. Mais oui, c'est rarement des armes illégales achetées sur un marché noir quelconque. Ouais.
D'après vous, ça va prendre combien de temps avant qu'on passe à un autre appel là, dans la foulée de cette tuerie-là dans une école élémentaire au Texas?
Ouais, tout le monde pensait que Sandy Hook, ça allait être... le game changer, c'est jamais arrivé. Donc ça, je pense pas non plus. Puis, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois que ces événements-là surviennent, ça vient totalement à l'encontre de l'idéal type de la raison pour laquelle il faut avoir plus d'armes. Hein. Par exemple, on dit toujours que ça prend un bon gars avec une arme pour arrêter un mauvais gars avec une arme. Puis regardez, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est pas vraiment le cas. Donc c'est vraiment problématique. Puis c'est que le discours, non, il change pas. Et puis moi, je vous dirais aussi, sans vouloir être un peu trop cynique, je vous dirais que j'en viens à conclure, après des années d'études sur les phénomènes de mass shooting, que les démocrates, en fait, se servent de ces événements-là pour rallier leur base, pour mobiliser leur base. Mais si on regarde les efforts, les vrais efforts, c'est-à-dire de ralliement des législateurs pour passer des nouvelles lois pour le contrôle des armes à feu, on n'en voit pas d'efforts comme ça. Il n'y en a pas. Biden, ça fait quand même un bout de temps qu'il est au pouvoir, là. Il s'en va vers les primaires et puis pas les primaires vers les
élections de mi-mandat, oui, au mois de novembre.
De mi-mandat. Et puis on voit pas vraiment d'action de ce côté-là. Puis pourtant, ça faisait partie de sa campagne électorale.
Mais est-ce que les démocrates pourraient agir au Congrès ou est-ce que leur majorité est pas assez grosse pour est pas assez vaste?
Je pense pas que la majorité soit assez grosse. Si on regarde par exemple des gens qui sont normalement du côté démocrate au niveau du vote au Sénat, Joe Manchin, Virginie de l'Ouest, oubliez ça, il va pas voter pour une loi qui va restreindre, si vous voulez, l'accès aux armes à feu. Et puis même si vous pensez à Bernie Sanders, allez voir sa cote à Bernie Sanders pour les armes à feu, juste pour voir. Puis c'est un grand supporteur des armes à feu. Donc juste là, vous venez de perdre 2 votes sur vos 50, vous êtes à 48, ça passe pas.
C'est quand même, expliquez aux gens qui nous écoutent, professeur Lemieux, là, vous êtes aux États-Unis, vous êtes à l'université de Georgetown, vous connaissez bien la mentalité américaine, c'est votre sujet d'étude, les armes, un de vos sujets d'étude. Oui. Expliquez comment il y a ce décalage entre l'opinion publique américaine puis les législateurs, parce que l'opinion publique américaine, majoritairement, veut un meilleur contrôle des armes à feu.
Oui, ça c'est vrai. Ça, on peut dire que dépendamment des années, dépendamment de quand est-ce que vous passez votre sondage, après un événement comme celui-là, c'est certain qu'on va probablement atteindre un autre sommet de, je serais pas surpris de voir 80% de l'opinion publique qui serait en faveur de certains contrôles pour l'acquisition d'armes à feu et même sur certains types d'armes à feu. Le problème, c'est les lobbies. Les problèmes, ça vient du point de vue de qui, en fait, contrôle les politiciens, hein, les politiciens qui sont souvent à la recherche de support financier. Puis on parle pas juste de la NRA, là. Je veux dire, je sais que la NRA, ça a été un sujet de controverse pendant des années, mais aussi les armateurs qui sont derrière tout ça, ceux qui produisent les armes, les armuriers et tout ça. C'est quand même un lobby assez puissant. On parle quand même de 30-quelques milliards par année de revenus liés aux armes à l'intérieur des États-Unis. Donc, c'est quand même un marché qui est extrêmement gros, qui est extrêmement varié, mais dont la balance penche principalement du côté républicain, c'est certain, à cause de l'alignement idéologique et de l'alignement politique.
On sait que aux États-Unis, les victimes de crimes par armes à feu ne peuvent pas poursuivre les fabricants d'armes à feu. Mais là, dans le cas de Sandy Hook, il y a eu des poursuites et j'aimerais ça que vous expliquiez comment les parents des victimes de Sandy Hook, il y a 10 ans, ont réussi devant les tribunaux récemment là, quand même à tenir les fabricants d'armes responsables.
Ouais, ben voilà, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quand même réussi à c'est ce que j'appelle une opération ou une action jiu-jitsu légale, c'est-à-dire qu'ils se sont servis du poids et de la force, si vous voulez, de leur adversaire pour retourner ça contre lui. C'est que la loi qui protège, ou en fait la loi qui est une sorte de d'ombrelle qui protège, si vous voulez, les fabricants d'armes, c'est le fait que les armes sont généralement achetées pas pour tuer du monde, mais pour se défendre ou pour le sport, pour la chasse et tout ça. Et puis là où les fabricants d'armes impliqués dans l'AR-15 notamment pour Sandy Hook, c'est qu'ils faisaient la promotion de l'arme comme une arme d'assaut. Hein? AR-15, c'est Assault Rifle 15, right? Mm-hmm. Donc c'est AR-15. Donc dans le mot assaut, c'est pas le mot défense. et c'est la manière, ce que je dis là, c'est pas juste une question sémantique là, je veux dire c'était quand même plus démontré que ça, c'est-à-dire que la manière dont ils commercialisent, la manière dont ils font le marketing de certaines armes, carrément ils le font comme préparez-vous, il va falloir que vous êtes un peu à la survivaliste et tout ça. Donc, ça devenait beaucoup plus, ça donnait, si vous voulez, une optique vraiment plus agressive, plus violente et plus offensive en termes de offensive au lieu de défensif. Et c'est sur cette base-là que les gens qui ont poursuivi, si je me trompe pas, c'est Remington, qui ont poursuivi. Remington se sont vus vraiment là supportés, si vous voulez, par les tribunaux dans cette démarche-là. Et c'est ce qui vient aussi lancer, si vous voulez, une sorte d'avertissement quand même assez important, si vous voulez. On va voir qu'est-ce que ça va donner en termes de précédent, mais ça vient donner aussi un avertissement assez important à l'industrie, parce que là, si le fait de vendre des armes et de les commercialiser comme étant des armes d'assaut, si vous voulez, ça vous protège plus et même que ça vous rend, si vous voulez, plus vulnérable sur le plan légal pour des poursuites judiciaires qui pourraient justement vous mettre dans la rue, qui pourraient vous faire faillite. À ce moment-là, ça devient problématique pour la survie de certaines entreprises. Puis là, on l'a vu, là, il y a des compagnies en ce moment, des compagnies d'armes à feu, des grandes compagnies d'armes à feu qui sont mises sous la protection de la loi de la faillite pour différentes raisons, mais entre autres pour celle-là.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Merci.
Bonne journée. C'était Frédéric Lemieux, qui est professeur à l'Université Georgetown aux États-Unis, spécialiste du contrôle des armes à feu, des tueries de masse. Je vous rappelle, 14 morts, 14 enfants morts dans une école primaire au Texas, un adulte, et ABC News là, et d'autres médias américains rapportent que le tireur, âgé de 18 ans, lui aussi est décédé. Il aurait tué sa grand-mère avant d'aller commettre le massacre à l'école élémentaire. OK, ben cette tragédie-là a toujours... les tragédies par arme à feu ont toujours quelque chose de particulier aux États-Unis parce que ben ça nous semble si étranger. Et il y a 10 ans, ça avait frappé dans une école élémentaire. On pensait qu'un nouveau, disons, seuil de l'horreur avait été franchi. On pensait que ça allait changer. Une autre école primaire a été frappée hier par un autre tireur fou qui avait acheté ses armes de façon, disons, très, très facile. On va écouter ce que le président Biden avait à dire là-dessus.
I had hoped when I became president, I would not have to do this again. I am sick and tired of it. We have to act. The idea that an 18-year-old kid can walk into a gun store and buy 2 assault weapons is just wrong. What in God's name do you need an assault weapon for except to kill someone? Was these kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world? Why? Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen?
Donc, pourquoi est-ce qu'on accepte ça? C'est le président des États-Unis qui dit ça. C'est quand même assez particulier. 19 enfants d'une classe de 4e année qui ont été massacrés dans leur école élémentaire. Ça s'est passé au Texas. Et il y a 10 ans, vous l'avez dit tantôt, ça s'est passé à Sandy Hook, au Connecticut. 20 enfants avaient été massacrés avec la même arme. Hein, par ailleurs, c'est l'arme de prédilection de ces gens qui décident de faire des tueries de masse, une AR-15. Et ça frappe l'imaginaire ici parce que ce sont des enfants les plus purs, les plus innocents d'entre nous. Les Américains vivent, au fond, une autre tragédie qui est liée à leur politique ultra-libérale en matière d'armes à feu. Et, je vais le dire crûment, ben, les Américains ont juste eux à blâmer. Les Américains ne punissent pas les politiciens qui pourraient encadrer la vente, la possession, l'utilisation des armes à feu. Mais ces politiciens-là choisissent de pas le faire. Le Parti républicain, c'est le parti des armes, de la libre circulation des armes. Au pouvoir, à Washington, dans les États, les républicains adoptent des lois qui sont carrément écrite par le lobby des armes. Au pouvoir, les républicains nomment des juges qui font une lecture littérale de la Constitution américaine et de son deuxième amendement là, qui permet le port des armes. Mais le deuxième amendement, ça date de 1791, quand la République naissante des États-Unis était une autre société. C'était une société qui avait encore la crainte de devoir se défendre contre les Britanniques. C'était une époque, en 1791, où les armes, c'était des mousquets, hein, qui avaient une capacité de combien de balles à la fois? Une balle à la fois. Et un bon tireur, on dit, pouvait tirer 3 balles par minute. Là, AR-15 a un chargeur de 30 balles et un bon tireur peut, en changeant de chargeur, tirer, semble-t-il, 45 balles par minute. L'AR-15 est en vente libre. Je pense pas que c'est ce que les pères fondateurs de la Constitution américaine avaient en tête quand ils ont adopté le deuxième amendement. Mais les républicains se battent pour que le AR-15 reste en vente libre. Au pouvoir, ben les républicains votent des lois qui interdisent des poursuites contre les fabricants d'armes à feu. Au pouvoir, les républicains ont interdit à des agences de santé publique de faire enquête, des recherches sur la mort par arme à feu, qui est un problème de santé publique. Au pouvoir, les républicains font même la promotion des armes à feu. Exemple, 2015, l'actuel gouverneur du Texas, Greg Abbott, s'est désolé de constater que son État était deuxième derrière la Californie pour l'achat de nouvelles armes et y a enjoint ses concitoyens sur Twitter à dépasser la Californie. L'actuel lieutenant-gouverneur du Texas, ça c'est le numéro 2 de l'État, l'État qui a été frappé par le massacre d'hier, ben, il s'est fait demander ce qu'il fallait faire pour endiguer ces massacres-là. Sa réponse, c'est celle de beaucoup de républicains ultra-pro-armes. Faudrait armer les profs, tous les profs. Faudrait transformer les écoles en forteresses. Ce serait ça la solution. Ça, cette réponse-là des républicains et des gens du lobby pro-armes aux États-Unis quand il y a des massacres semblables, c'est une vision Bruce Willis de la vie. C'est espérer qu'une enseignante de quatrième année va se transformer en tireuse d'élite, en policière d'élite et va abattre le tireur fou. Les Américains, là, je le répète, comme société, OK, ont eux et eux seuls à blâmer pour ces massacres-là. Des sociétés, puis on va s'en tenir aux sociétés démocratiques, ben ça fait des choix. Puis les Américains, par leurs choix électoraux, fédéral comme dans les États, ont jamais puni les républicains pour être devenus des jumeaux du lobby des armes. Ça donne des massacres comme celui de Buffalo la semaine passée, qui ciblait des Afro-Américains. 10 morts. Ça donne Columbine, une tragédie symbolique qui visait des élèves du secondaire. 12 morts à l'époque. Ça donne, rappelez-vous, il y a une couple d'années, Las Vegas, des spectacles, des spectateurs qui regardent un show, je pense que c'était du country, en plein air. Puis là, il y a un tireur embusqué qui avait loué une chambre d'hôtel. 59 morts. Ça donne Sandy Hook au Connecticut, des élèves du primaire, encore une fois. 26 morts. Au Texas, hier, 21 morts, dont 19 enfants massacrés. Ça donne tous ces massacres-là depuis des années. Les sociétés, ça fait des choix. Je vais vous donner un autre exemple. 1996, en Écosse, il y a un tireur fou qui rentre dans une école primaire et qui tue 16 enfants. Mais le Royaume-Uni a été tellement choqué par ce qui s'était passé qu'on s'est doté d'une loi qui a essentiellement interdit la possession d'armes à titre privé. Le gouvernement britannique, à l'époque, a racheté 162 000 armes de ses citoyens avant que ces armes-là soient rendues illégales. Les Britanniques ont fait un choix comme société à cette époque-là. Même s'ils n'étaient pas dans une société qui souffrait de tueries de masse du genre de celle qu'on voit aux États-Unis, ils se sont dit à l'époque, après ce qui s'est passé en Écosse, plus jamais. Puis il n'y a plus jamais eu de massacre semblable depuis 1996 commis par des tueurs fous au Royaume-Uni. Il y a des fous partout, mais ce n'est pas tous les fous qui ont accès à des armes comme aux États-Unis. Écoutez, en Occident, hors des États-Unis, ces massacres-là ne sont pas inexistants. Mais ils sont rares, ce sont des aberrations statistiques, alors qu'aux États-Unis, ben, quand tu peux t'acheter un gun avec la même facilité qu'on achète un toaster, c'est ça qui arrive. Puis quand je fais l'analogie du toaster, j'exagère à peine. Les Américains pourraient changer le cours des choses. Ils pourraient imposer à leurs dirigeants un contrôle des armes à feu plus sévère. Ils pourraient dire, comme les Britanniques en 96, plus jamais. Ils ont eu 100 fois l'occasion de le faire à chaque tuerie. Mais ils votent pour des politiciens qui couchent avec l'industrie des armes. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix mortel. C'est un choix qui fait qu'il y a des enfants qui sont massacrés dans une classe de quatrième année et qui fait que des politiciens disent « Ouais, ben ça prendrait des profs de quatrième année qui sont armés. » Bien, les Américains vont devoir vivre avec ces choix-là. Ils vivent avec ces choix-là. Mais je veux le souligner, ce sont des choix qui ont des impacts jusqu'ici. Au Canada, jusqu'ici au Québec, jusqu'ici à Montréal, jusqu'ici à Laval. Parce que vous le savez, c'est un problème grandissant au Québec. On a un problème d'armes à feu illégales. J'ai fait plusieurs entrevues dans la dernière année là, avec des policiers, avec des chefs de police, avec des politiciens sur le contrôle des armes à feu. Parce qu'on annonce des escouades, il y a des tragédies. Donc ces gens-là se rendent disponibles pour des entrevues et je leur ai posé bien souvent la même question. Si on n'était pas collé sur un pays où il y a 300 millions d'armes en circulation, où on peut acheter une arme avec beaucoup de facilité, est-ce qu'on aurait ce problème de prolifération des armes ici? La réponse, c'est toujours non. Si notre voisin, c'était à Norvège, on n'aurait pas ce problème-là. Ça se tire dans les rues de Montréal, de Laval, de Toronto, en grande partie. Pas seulement, mais en grande partie, parce que nos voisins américains ont trop d'armes. Ça crée un commerce. Il y a des entrepreneurs aux États-Unis qui se disent « Hey, il y a des Canadiens qui n'ont pas accès comme nous ici à des armes au Walmart, dans les magasins, ben on va leur envoyer. » Fait que ça crée un commerce, un peu comme la drogue. Bref, la permissivité des Américains face aux armes, cette forme de laisser-tuer qui est, je veux dire, qui n'a pas d'équivalent ailleurs en Occident, cette forme de permissivité, ça tue des gens et ça blesse des gens ici aussi. En terminant sur cette affaire-là, deux flashs que je veux partager avec vous. L'âge pour acheter de l'alcool au Texas, tu peux pas acheter d'alcool, tu peux pas acheter de vodka, de bière, si t'as pas 21 ans. L'âge pour acheter des guns, 18 ans. Le gars qui a tué tous ses enfants au Texas hier, 18 ans. Deuxième flash. En fin de semaine, c'est le congrès de la NRA, le plus gros lobby des armes à feu aux États-Unis. Où va se tenir le congrès? À Houston, au Texas. Le Texas, c'est l'État où ces écoliers ont été massacrés dans une école. L'ex-président Trump était programmé pour y être. Il va y être malgré le massacre. Tout l'establishment républicain va y être, comme le gouverneur du Texas, M. Abbott. Tout est dans tout.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
OK, il y a de plus en plus de questions qui se posent au Texas, aux États-Unis, sur la réponse des policiers, des premiers policiers qui sont arrivés à l'école Robb Elementary à Uvalde. Et il y a des images assez troublantes qui circulent. Ça se passait pendant la fusillade des parents qui ont accouru à l'école et qui sont tombés sur des policiers qui, eux, attendaient les renforts du SWAT, policiers armés. Qui ne voulait pas entrer dans l'école. Ça pose plein de questions sur la formation, sur les choix tactiques, mais aussi sur la fibre d'être humain quand on se retrouve dans une situation semblable, même si on porte un uniforme, même si on a une arme avec soi. Denis Côté, policier retraité du SPVM. Denis Côté s'est rendu célèbre en 2006. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a atteint le tireur du collège Dawson dans ce triste événement. On s'en souvient, là, le tireur fou qui avait fait irruption à l'école, au collège Dawson, au centre-ville de Montréal. Et c'est Denis Côté qui l'avait atteint. Et ensuite, le tireur s'était donné la mort. Salut, Denis!
Hey, salut, célèbre, tu y vas pas avec le dos de la cuillère.
Ben, écoute, c'est une biographie, des reportages, puis il y a même eu une série documentaire sur toi, fait que t'es célèbre au moins dans les rangs de la police, Denis. Mais regarde, je veux qu'on parle, après cet événement-là, tu m'avais dit, écoute, il y a plein de policiers qui y vont, qui arrivent sur les lieux, puis tu m'avais expliqué comment t'avais fait ton chemin jusqu'à la mezzanine, là, puis t'avais pu tirer l'assaillant, puis tu m'avais expliqué aussi que il y a des policiers qui arrivent là et qui gèlent, qui veulent pas rentrer.
Oui, mais de fait, ça m'est arrivé aussi. Moi, c'est à Dawson, c'est ça qui est... La première petite claque que j'avais eue, le premier tir vert, c'est je rencontre un gars que je connais, un policier que je connais, puis pour faire une histoire courte, lui, je dis, garde, on s'en va, puis il a gelé. Fait qu'il m'a comme fait signe, non, je vais pas. Fait que ça revient à dire que en dessous de l'uniforme, l'affaire qui vaut le plus, c'est l'individu, l'être qui est là. Est-ce que, tu sais, comme on dit, l'habit fait pas le moine. Là, tu peux avoir un uniforme sur le dos, mais tu peux ne pas te sentir préparé à un événement comme ça. Tu peux ne pas t'avoir préparé mentalement à un événement comme ça. Tu n'as pas fait de visualisation. Je sais pas, tu sais. Fait que ça demeure tout une question de toi comme individu, comment tu te prépares puis comment tu vas réagir face à une situation. Il faut que tu l'aies anticipé un peu aussi, là. Mais tu sais, il y a plusieurs choses qui... Tu as ta préparation, tu as ta visualisation, tu as ta formation, tu as ta mentalité aussi. T'es-tu dans la police par vocation ou t'es là pour les avantages sociaux? Tu sais, on se cachera pas que c'est un humain. Fait que les humains, on est tous différents. Puis en dessous de l'uniforme, ben... T'sais, ça peut faire une différence au moment où tu vis une situation comme ça, là.
Mais les images qui nous parviennent de Uvalde là, sont assez troublantes, Denis, quand même. Là. Il y a plusieurs policiers en armes qui sont là, qui se font engueuler par des parents qui sont désespérés. Comment ça se fait, tu penses qu'il n'y a aucun de ces flics-là qui a dit « OK, on va y aller, on va pas attendre le SWAT ».
Mais moi, ça me fait, tu sais, les États-Unis, on sera toujours, on va toujours être surpris de leur mentalité, là. Mais ça me dit un peu comme si il n'y avait pas évolué. On dirait que de la façon que tu me décris l'événement, mais là, tu sais, c'est sous toute réserve parce que ça va être enquêté, là, évidemment, là. Mais tu sais, on dirait que tu me parles de policiers qui ont la mentalité qu'on avait à l'heure de la, tu sais, lors de la Polytechnique. On dirait que tu es en train de me raconter un scénario qui décrit, mettons, des façons de faire qui n'ont pas évolué, c'est qui était, mettons, synonyme de celles qu'on avait dans le temps de la Polytechnique. Ça n'a quand même pas de sens. Les États-Unis, s'il y en a qui devraient être préparés à ça, c'est bien eux autres. C'est pas un quotidien, une fusillade pour eux autres, mais mettons que c'est pas loin de ça non plus. Là.
Parce que, Denis, il faut le dire, à Polytechnique, les premiers patrouilleurs qui sont arrivés, ce qu'ils avaient comme instruction, c'est « Ah, tu restes dehors, puis t'attends que le SWAT arrive. »
Oui, et là, c'était une formation.
Puis ce qu'on a constaté dans le post-mortem, là, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est les premiers qui arrivent sur une scène semblable, ils rentrent, ils inondent la zone, puis oui. Ils vont essayer de talonner le gars qui tire, parce que tu veux qu'il devienne traqué.
Oui, puis ça, les formations, ils vont en ce sens-là. Les techniques ont été développées pour ça. Ce qui me surprend, c'est que d'après que les techniques aient été envisagées puis données aux patrouilleurs, il y a plusieurs pays dans le monde qui venaient chercher nos techniques. Fait que tu te dis, ben, à un moment donné, c'est un signe d'évolution. Puis ceux qui auraient dû s'en enrichir, c'est bien les Américains. Ils sont tout le temps là-dedans. Fait que je suis un peu surpris. Je suis quasiment sceptique. Face à ce que tu me dis, ce que tu me décris, là, je suis un peu sceptique. Mais si c'est vraiment le cas, ça revient à ce qu'on disait. C'est une question d'individu. Ça veut dire que les policiers qui étaient là, ils étaient pas prêts mentalement ou ils étaient pas formés pour y aller. Là, je comprends pas. Là.
Denis, tu sais, ce qu'on voit, c'est tous les policiers restent là. Ils rentrent pas. Fait que là, après ça, on peut se dire, tu sais, c'est pas juste des gens qui ont gelé. Est-ce que tu penses que ça pointe vers une directive du département de police dans ce coin-là?
Ah, ça, j'aurais bien peur. Non, je penserais pas.
Non?
Moi, je penserais plus un manque de formation, peut-être. Tu sais, parce que la formation continue, c'est beau, là, mais c'est pas dans le réel, c'est pas tout à fait ça, là, tu sais. Fait que moi, je pense que non, c'est un manque de préparation, de formation ou de la part des individus qui étaient là, tu sais, peut-être qu'ils n'avaient jamais anticipé ça, mais pourtant, ils devraient, les Américains, c'est quand même chose courante, tu sais. Fait que non, moi, je penserais pas que ça soit une directive, mais vraiment pas. C'est sûr. Puis en plus, ces policiers-là, ce qui me fascine un peu, c'est que nous autres, tu sais, on a appris, mais avec nos limites aussi, pareil, hein, parce que je te ferais remarquer qu'on n'a toujours pas d'armes longues, là. Les patrouilleurs n'ont pas accès aux armes longues, là. Puis c'était dans les recommandations du
coroner.
Du coroner. Mais on les a toujours pas. Mais eux, ils ont des armes d'assaut la plupart du temps dans leur véhicule. Donc, ils sont mieux ferrés pour répondre à ces situations-là. Ça me laisse un peu perplexe. Je comprends pas qu'ils aient pas agi. Mais si c'est ça, là, je veux pas les juger. On va peut-être avoir d'autres paramètres plus tard. Oh. Mais si c'est vraiment le cas, tel que tu me le décris, Simonac, je me dis, ils ont pas évolué.
Denis, la vie, c'est pas un film, puis on voit qu'il y a des politiciens aux États-Unis là qui reviennent avec cette idée-là que si chaque prof était armé, ce genre d'affaire-là arriverait pas. Explique aux gens qui nous expliquent d'abord c'est quoi tirer du gun dans une situation stressante, et ensuite, c'est quoi tirer du gun avec quelqu'un qui est mieux armé que toi?
Mais tirer du gun, quand tu me parles des États-Unis, on dirait que c'est comme si c'était aller souper, tu sais. Mais oui, peut-être qu'ils sont habitués, tu sais, puis tirer du gun sur une cible, c'est quelque chose, c'est une activité du dimanche matin. Ça, pour eux autres, c'est peut-être ça. Mais dans un contexte réel où tu fais face à une menace, là, l'être humain, tu sais, s'il n'est pas préparé, il va être envahi par la peur, par le stress, puis à ce moment-là, toutes ses facultés cognitives, ils vont changer, avec l'utilisation de l'arme à feu. Fait que c'est faut que tu sois préparé, non seulement à avoir une arme à feu, à l'utiliser, mais à te mettre dans un contexte de stress qui va, tu sais, là où tu vas devoir employer ton arme à feu. Même nous autres, quand on va tirer, ou bien même devant les simulateurs, c'est une chose de te mettre dans un simulateur puis de tirer, c'est bon. C'est sûr que ça te prépare. Mais si tu y vas avec nonchalance en disant, bah, ça peut rien m'arriver, puis tu te mets pas dans une situation où tu es appelé à contrôler ton propre stress, ben, quand tu vas vivre ton stress, tu sais pas comment tu vas réagir. Donc, tu peux figer, tu peux fuir, ou tu vas peut-être bien réagir, puis tu vas sortir ta préparation, puis tu vas foncer. T'sais? Mais il faut être capable. Moi, je pense que ce que je dis souvent à des amis policiers, faut d'abord et avant tout que tu sois capable, quand il arrive un événement stressant comme ça, de tout de suite faire la dissociation entre tes capacités puis tout ce qui est émotionnel. Faut pas que tu laisses l'émotion rentrer. Parce que si tu laisses l'émotion rentrer, ben là, à ce moment-là, tu vas dire, je vais-tu rentrer à la maison, mes enfants, ma femme, puis le kit. Puis ça vient tout biaiser ta capacité de réagir face à l'événement, ta capacité de l'analyser, puis ta capacité de ressortir ta formation pour l'affronter. Tu sais, c'est un peu technique, c'est un peu du blabla ce que je te dis, là. Mais c'est quand même ça, comme individu, qu'il faut que tu apprennes à gérer puis à filtrer, tu sais. Fait que là, visiblement, de la façon que tu me décris ça, tu fais face à des policiers qui se sont dit, ils se sont peut-être jamais visualisés dans une situation de même, qui ont dit, oh, non, t'as peu, le SWAT, eux autres sont formés pour ça, on les laisse venir. Mais tous ces événements-là, là, il faut qu'ils soient contrôlés en dedans de 20 minutes. C'est, toutes les études le démontrent, c'est les 20 premières minutes qui sont les plus difficiles à gérer, mais qui sont les plus nocives dans l'événement. Fait que faut que tu fonces, t'as pas le choix, faut que tu rentres. Puis notre formation, aujourd'hui, au Québec, en tout cas, est faite en ce sens-là. Mais je comprends pas que les Américains l'aient pas adopté, là. Ça me fascine un peu, là.
Merci, Denis.
Ben, ça fait plaisir, Pat.
À la prochaine.
J'espère que j'ai pu répondre à ta question, là.
Ben, mais... écoute, il y a pas beaucoup de gens qui peuvent expliquer c'est quoi entrer dans un lieu où il y a un tireur actif. T'es une de ces personnes-là. Moi, je trouve toujours ça utile de te donner la parole là-dessus.
Ben, ça me fait plaisir, Pat.
Salut, mon gars. C'était Denis Côté, ancien policier du SPVM. C'est lui qui avait atteint le tireur au collège Dawson. Je trouvais ça important de parler avec Denis parce que là, il y a beaucoup de critiques contre les policiers aux États-Unis. On ne sait pas pourquoi ils ne sont pas rentrés, les policiers de Uvalde. Est-ce que c'était une directive? Est-ce qu'ils ont eu des ordres sur le fly comme ça par un commandant? Est-ce qu'ils ont tous gelé? On ne le sait pas. L'enquête va le démontrer. Mais l'autre point que je trouvais important dans cette entrevue-là, c'était de démontrer par l'absurde comment c'est stupide de penser qu'on va donner des guns à tous les profs, à toutes les enseignantes, pour qu'elles puissent tirer sur quelqu'un si quelqu'un rentre. Vous avez des policiers qui sont là, qui sont formés, puis qui y vont pas. Il y a peut-être une raison. Puis, dernière affaire, pas tirer du gun souvent dans ma vie, l'ai fait une fois. J'étais en voyage il y a très longtemps aux États-Unis, quelques années, et avec ma blonde de l'époque, on était allé dans un shooting range, on était allé tirer. Même quand c'est toi qui tires, c'est terrifiant. Le bruit, c'est terrifiant. Savoir ce que tu as dans la main, c'est terrifiant. Fait que si tu es un prof, tu es en train d'enseigner comment accorder des verbes, puis soudainement, tu entends des tirs d'armes automatiques ou semi-automatiques comme ça, là. Ça se peut que tu gèles. Je suis pas sûr que même si t'as un bazooka, tu vas savoir comment t'en servir. C'est très épeurant. Quand on parle de menace à la sécurité nationale, on pense à quoi spontanément? Mais traditionnellement, il y a les adversaires nationaux du Canada, là, disons la Russie, la Chine, par exemple. La menace terroriste, ça a longtemps été le terrorisme commis au nom de l'islam. Ce qui préoccupe de plus en plus les experts, et pas juste au Canada, c'est la menace terroriste d'extrême droite, comme à la mosquée de Québec, Buffalo, la semaine passée, Christchurch, en Nouvelle-Zélande, il y a quelques années, et aussi, oublions pas, l'attaque du Capitole américain dans une tentative ratée de coup d'État pour garder Trump au pouvoir. C'était aussi en partie le fait de l'extrême droite américaine. Et parlons-en des États-Unis, parce que traditionnellement, il n'y a pas eu de menace « made in USA » pour le Canada en provenance des États-Unis en termes de sécurité nationale. Ça pourrait changer, à en croire un groupe d'experts de l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, qui publiait aujourd'hui un rapport, ma foi, assez inquiétant. Thomas Junot est un de ces experts. Professeur Junot, bonjour.
Bonjour.
D'abord, écoutez, il y a une ligne là qui m'a hanté dans votre rapport, et je vous cite, OK? « Les États-Unis demeureront notre plus grand allié, mais ils pourraient devenir une source de menace et d'instabilité. » C'est quasiment de la science-fiction de dire ça.
Ben, jusqu'à il y a 5 ans, ça aurait été de la science-fiction. Et à ce moment-là, ça aurait été la bonne réaction. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et ce qu'on essaie de faire dans le rapport qu'on a publié ce matin, c'est un peu d'appeler les politiciens, la société en général, les médias, à porter plus d'attention sur, en général, la détérioration de l'environnement de sécurité du Canada, mais entre autres, ce qui se passe aux États-Unis. Trump pourrait revenir au pouvoir en 2024. Il y a un recul démocratique aux États-Unis. Il y a plusieurs événements que vous avez mentionnés. Tout ça, ça continue, ça risque de se détériorer, puis ça a un impact majeur pour le Canada.
C'est quoi? On a longtemps, on compte depuis toujours sur un voisin qui est puissant, stable et amical. Expliquez aux gens qui nous écoutent comment ce voisin stable, puissant et amical va peut-être passer des ondes de turbulence qui vont nous affecter prochainement.
Depuis des décennies, le Canada bénéficie énormément de sa relation avec les États-Unis. Au niveau de notre prospérité, au niveau de notre sécurité, on a bénéficié énormément. C'est une relation qui a souvent été frustrante, il y a beaucoup eu d'irritants, il y a eu beaucoup de reproches du Canada à l'endroit des États-Unis et vice-versa, tant qu'à ça, qui étaient souvent légitimes, mais en bout de ligne, on a bénéficié. Mais quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, il y a plusieurs signes, il y a plusieurs tendances qui sont inquiétantes. Il y a le recul démocratique, il y a la polarisation croissante, il y a le risque d'instabilité. Qu'est-ce qui arrive si l'élection en novembre 2024 au niveau présidentiel est contestée? Qu'est-ce qui arrive si Trump revient au pouvoir et il menace de retirer les États-Unis de l'OTAN et qu'il le fait? Qui devient de plus en plus agressif, unilatéral, imprévisible sur la scène internationale. Qu'est-ce qui arrive si c'est pas Trump, mais un autre républicain qui lui ressemble? Qu'est-ce qui arrive si ce républicain-là, non seulement ressemble à Trump, mais est plus compétent? Une des choses qui nous a le plus rendu service sous Trump, c'était à quel point il était incompétent dans plusieurs choses qu'il faisait, malgré ses idées dangereuses. Je pourrais continuer comme ça à nommer des scénarios. Le point de notre rapport, c'est pas de faire une prédiction en particulier. Évidemment qu'on n'est pas capable de faire ça. Notre objectif, c'est de provoquer un débat pour qu'on en parle beaucoup plus ouvertement au Canada, de cet aspect-là, mais aussi d'autres menaces, la Chine, la Russie, l'extrémisme en général, mais sur l'angle des États-Unis, il faut qu'on en parle.
Quel regard vous portez sur l'influence américaine dans ce qui s'est passé à Ottawa en début d'année, l'occupation du centre-ville?
Ça, c'est une bonne question. Puis il faut avoir un point de vue nuancé sur ce qui s'est passé. Il y a un problème d'extrême droite au Canada, de suprémacisme blanc, qui est local. Il y a certaines personnes au Canada qui ont un peu tendance à blâmer les États-Unis pour dire ils ont exporté leurs problèmes chez nous. Ça, c'est pas vrai. C'est un problème local qui vient de chez nous. Ceci étant dit, c'est aussi vrai qu'il y a des liens croissants entre plusieurs individus, plusieurs groupes d'extrême droite, suprémacistes blancs et autres, au Canada et aux États-Unis et ailleurs dans le monde, en Europe, en Russie dans certains cas. Et ces liens-là mettent un peu de l'huile sur le feu. Ça leur donne des idées, ça leur donne des ressources, ça leur donne de l'argent. Mais il faut faire attention à pas blâmer le problème sur les États-Unis ou d'autres.
Non, évidemment, on a nos propres agités du bocal ici. Absolument. C'est mon expression, c'est pas la vôtre. Mais quand même, on peut pas s'empêcher de penser ce que serait le Canada pour, disons, des États-Unis qui ne sont plus démocratiques. Je regardais ce qui se disait à Fox News et dans certains cercles républicains sur le Canada, sur Trudeau, sur le communisme canadien, entre guillemets. Ça donne un peu froid dans le dos de penser que ces gens-là pourraient être au pouvoir sans trop, de garde-fous, là.
Oui, c'est sûr. Et puis, même sans aller jusqu'aux scénarios les plus extrêmes comme ça, il y a toutes sortes de scénarios intermédiaires qui sont inquiétants. Puis dans ces scénarios intermédiaires-là, il y a des choses qu'on peut faire au Canada pour essayer de devenir un peu plus autonome, pour essayer d'être un peu plus capable de gérer notre propre sécurité par nous-mêmes. Mais ceci étant dit, quoi qu'il arrive aux États-Unis, et ça, on le dit dans le rapport, puis c'est important à garder en tête, on est condamné à être dépendant de ce pays-là. On va jamais réussir à complètement séparer notre sécurité ou notre commerce international des États-Unis. Alors, en quelque part, dans cette réponse-là, il y a un exercice d'ajustement, d'adaptation qui va être très difficile, mais qu'il va falloir faire.
Professeur Junot, je vous suis sur Twitter. Vous parlez souvent de sécurité nationale et vous dites souvent, peut-être pas dans ces mots-là, mais que le Canada est pas sérieux en matière de sécurité nationale. Qu'est-ce qu'on doit urgemment faire pour devenir sérieux en matière de sécurité nationale au Canada?
Mais la première chose à faire, puis c'est notre première recommandation dans le rapport, qui contient en tout une soixantaine de recommandations, c'est une révision de notre politique de sécurité nationale. Le Canada n'a pas publié de nouvelle politique de sécurité nationale depuis 2004. Et on peut avoir un débat sur la pertinence de révision de politique, l'exercice bureaucratique que ça peut représenter. C'est des questions quand même pertinentes, mais ça fait 18 ans là, qu'on l'a pas fait. Puis un exercice comme ça, ça permet à la bureaucratie d'y penser, ça permet de communiquer avec la population canadienne pour signaler l'importance des enjeux, ça permet de communiquer avec nos alliés, tout ça. Alors, il y a beaucoup de bénéfices là, à faire cet exercice-là, et on est rendu à un point où il faudrait vraiment le faire.
Merci d'avoir pris le temps pour expliquer tout ça à nos auditeurs. Bonne journée.
C'est moi qui vous remercie.
À la prochaine. Thomas Junot est expert en sécurité nationale. Il a aussi travaillé au ministère de la Défense nationale. Il est professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa.
23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.